bulletin. Merci de l'avoir suivi. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission interactive À votre avis, présentée par Nathalie Barge en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, deux généraux remplacent les gouverneurs des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, qui ont été placés sous état de siège le 6 mai par le président Félix Tshisekedi pour tenter de mettre fin aux attaques des ADF et autres groupes armés. Et les militaires qui sont en charge dans ces provinces sont d'anciens rebelles. Alors comment soutenir l'effort de guerre et assurer la sécurité dans l'est de la RDC? Pensez-vous que l'état de siège soit la solution? C'est les questions donc qui vous seront posées aujourd'hui, auxquelles vous allez répondre. Nous avons déjà des commentaires sur le Facebook de VO Afrique, notamment celui de Baudelaire Hatchou, que nous essayons de joindre, qui est au Bénin. Nous l'avons déjà d'ailleurs. Baudelaire, comment allez-vous?
Comment ça, madame? Je vais très bien.
Alors, vous dites qu'il faut donner à l'armée les moyens, et on vous écoute hein, pour en savoir un petit peu plus sur votre point de vue sur cette situation.
Je pense que, comme je l'ai dit, vous allez savoir que d'abord l'est de la RDC, d'abord c'est une zone qui est en conflit, il y a date vraiment de cela des années. Et toutes les solutions trouvées pour voir, et comment dit-on, pacifier cette zone, étaient vraiment des échecs. Oui, c'était vraiment des échecs. Et si l'État central a pris la décision de confier la gestion de cette zone-là à des généraux, je pense quand même que c'est sûrement que c'est une idée bien mûrie. Et l'État pense quand même que déjà par là, il peut parvenir quand même à ramener la paix comme on le souhaite depuis des années. Mais là, vous allez voir que c'est déjà comme avoir une mission. Et quand on voit déjà une mission, il faut vraiment donner des moyens. Et quand je parle de moyens, il y a plusieurs variétés de moyens, des moyens techniques au niveau de la formation, des moyens roulants, d'abord tout ce dont et comment on sait là on a besoin pour atteindre l'objectif visé par l'État en leur confiant cette zone-là. Là, vous allez voir que les ADF, c'est des miliciens qui sont vraiment armés, qui ont vraiment la technique. Et je me demande même comment est-ce que cela parvient vraiment à trouver vraiment des moyens de guerre de ce calibre-là. Donc déjà, il faudrait que, d'abord, vous avez parlé de la coopération de la population, ça, c'est nécessaire. Et là, maintenant aussi, étant donné que le camp d'Afat est informé, vous allez constater qu'ils vont nécessairement changer de stratégie. Chaque stratégie, c'est comment ça peut déjouer le plan quand même de ces généraux-là qu'on a mis à la tête de ces localités-là. Donc, c'est à l'État maintenant de voir, dans la mesure du possible, qu'est-ce qu'il faudrait, comment est-ce qu'il faut aider ceux-là, quelle formation leur donner et quelle stratégie mettre en place en commun accord avec la population pour parvenir quand même à arrêter ces désordres qui s'observent depuis quelques années quand même à l'est du Congo. Moi, c'est un peu ce que je pense vraiment.
Grand merci Baudelaire Hatchou hein, pour vos suggestions, hein, votre point de vue sur cette situation. Vous parlez en effet qu'il faut donner des moyens à l'armée, mais vous dites hein, que une fois informés, les milices risquent de changer de stratégie d'attaque. Donc merci Baudelaire, à très bientôt. On a Idriss Sangba Ouattara, top fan, qui est en Côte d'Ivoire. Idriss, comment allez-vous?
Oui, ça va.
Alors vous, Idriss, vous pensez que la population doit se rendre indispensable et collaborer étroitement avec l'armée. Vous allez nous dire de quelle manière, Idriss, on vous écoute.
Voilà, effectivement, pour lutter contre cette terreur là-bas, il faut que la population soit au moins indispensable. Collaborer directement et étroitement avec l'armée, parce que pour avoir une armée qui a vraiment les informations, il faut la population. Si l'armée se fait peur par la population, je l'ai dit, personne n'informera la population. Puisque, comme je l'ai dit, c'est comme une guerre asymétrique, personne ne voit l'ennemi venir. Voilà, donc il faut vraiment mettre la population en confiance et tout le monde a droit à y participer vraiment pour qu'il y ait au moins un semblant de paix dans ces deux régions du Congo qui souffrent depuis plusieurs décennies. Sérieusement. J'ajoute aussi, je vois des personnes, soit peut-être entre guillemets, des seuls ou des personnalités critiquer les deux personnes, les deux généraux de l'île. Attendez, ce sont des Congolais après tout. Peut-être dans le passé qu'ils ont pu faire des erreurs. Si on pense qu'ils sont capables de nous ramener à la paix, alors il faut vraiment les soutenir. Alors ne tuons pas, ne mettons pas la charrue avant les deux. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Si on leur a donné un mois, si dans un mois qu'on voit vraiment ce qu'on veut n'a pas été ça, bon, on verra maintenant, on pourra critiquer. Du moment ils sont nommés, on les attend sur un travail. Si le travail est fait, c'est en fonction du boulot qu'on peut maintenant les critiquer. Mais ne regardons pas ce passé entre parenthèses pour les juger. Sinon, pour le moment, le Congo a besoin de tous ses filles et fils de l'écureuil de Chouine.
Un grand merci Idriss, un grand merci voilà. Idriss Sangba Ouattara. Alors pour rebondir sur ce que Idriss vient de dire, il est vrai que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a décidé de faire confiance à deux anciens rebelles pour diriger ces deux provinces. Le gouverneur militaire du Nord Kivu et le général Luboya Nkashama, ancien chef de la première zone de défense qui comprend notamment Kinshasa. Il était également le commandant de la 13e région militaire de l'Équateur. Alors, cet officier originaire de la région du Kasaï est un ancien membre de la rébellion du RCD Goma, proche du Rwanda, qui administrait autrefois cette province, ce qui a déjà été signalé d'ailleurs par certaines organisations de la société civile. Et le général Luboya Nkashama est, comme prévu, assisté d'un policier qui est le commissaire divisionnaire à Longue, Boni Benjamin. On pourra parler de l'autre gouverneur militaire après avoir... on a quelqu'un au Soudan du Sud. Comment allez-vous? Soudan du Sud, à Juba. C'est Aïki Mokili Etfron, c'est ça?
Oui, ça va. Aïki Mokili David.
Formidable, c'est vraiment un plaisir de vous entendre à partir de Juba, parce que ce n'est pas souvent. Donc on espère que vous reviendrez participer à nos émissions et on vous écoute donc sur la question de la République démocratique du Congo, l'est du pays, donc la violence armée. À vous la parole.
Exactement. Oui, madame, en tout cas, merci de m'avoir accordé la parole concernant, en tout cas, la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, entre l'Ouest et l'Ituri, spécifiquement, concernant l'adhésion de certains chefs de l'État ex-rebelles qui sont, en tout cas, choisis par le président de la République à être, en tout cas, à représenter à l'est et puis à dans la partie nord qui vous. Et ma question est de savoir, en tout cas, si c'est une bonne idée et une bonne initiative, c'est peut avoir en tout cas une coïncidence selon son rapport qu'il a dressé, en tout cas choisi, cet homme à ces hommes à être à la tête, soit à représenter l'Est du pays. Ça peut avoir une bonne initiative à ceux qui sont là dans la bourse, dans les décisions des opérations, des groupes rebelles qui opèrent dans l'est de la République en général. En tout cas, à voir que soit avoir une avis, en tout cas, si c'est comme ça, c'est une avis qui fait nos exercices de la rébellion et puis essayer d'en tout cas de joindre. Et puis, ma question est ça. Si ça n'est pas sûr, après les plans et puis les plans de guerre, en tout cas, qui est dressé par l'ex-chef de la MONUSCO de la République démocratique des Nations Unies au Congo, et puis les plans dressés par lui. Et puis ce qui n'est pas là spécifiquement concernant ce qui se passe à l'est de la République. Deuxièmement aussi, il y a aussi la révolte qui est organisée par les populations sur le terrain, de part et d'autre des Beni, à Nord Kivu, et puis côté d'Aru, entre la voie de la route entre Aru et Bunia, et Djougou, et Mombasa, et puis à Bouna exactement. Il y a des actes qui se passent entre ceux-là. Est-ce que ces hommes qui sont choisis par le président, est-ce qu'ils peuvent porter, en tout cas, un remède concret à l'insécurité totale qui se passe en République démocratique?
Alors, merci beaucoup, Ayiki. Oui, Ayiki, pour votre questionnement et donc votre réflexion. Je rappelle, à partir de Djouba, au Soudan du Sud, on a parlé tout à l'heure du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Luboya Nkachama, et il y a donc l'autre gouverneur militaire qui a été nommé en Ituri. C'est également un ancien rebelle issu de la rébellion du MLC. Le général Constant Dima Kongba était commandant de la troisième zone de défense qui couvre les deux Kivu, Maniema et Tchopo. Et il était auparavant chef d'état-major adjoint en charge de l'administration et de la logistique. Et son vice-gouverneur est le commissaire divisionnaire Ekuka Lipopo, et qui était lui chargé de coordonner le groupe technique pour la sécurisation des élections. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Ah oui, nous avons Marie-Paul Awa qui est à Kisangani. Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, merci madame. Et vous-même?
Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Quelle est votre réflexion donc sur la situation actuelle dans l'est de la RDC, notamment avec l'état de siège?
Oui, madame, étant donné que les institutions ne valent que ce qui valent leurs alimentaires, à mon avis, il est difficile et incertain que tout ce que les hommes sont en train de faire, toutes les mobilisations, ne produisent des effets escomptés. Et pour la simple bonne raison que dans un pays où il y a l'absence de gouvernance, dans un pays où il n'y a pas la traçabilité, il est tellement difficile que dans ces pays-là, que les engagements que les États prennent ou les animateurs prennent soient concrétisés. Alors, le temps du siège qui vient d'être décrété en République démocratique du Congo, je pense que c'est d'abord une voie constitutionnelle qui permet au chef de l'État, justement, lorsqu'il y a une situation d'insécurité, qu'il mette en place un état de siège. Mais il y a des préalables qu'il faut, à mon avis, que l'État congolais doit mettre au rendez-vous. Le premier préalable, c'est que l'État congolais doit d'abord lutter contre les détournements des fonds alloués aux militaires. Parce que vous savez, les militaires de notre pays souffrent. Et l'argent que l'État est en train de débourser sont répartis par les hiérarchies, ce qui fait que beaucoup plus de militaires soient découragés. En deuxième lieu, on doit mettre en place un mécanisme de diligence aussi bien pour qu'il y ait la réforme au sein des systèmes de sécurité et de défense de la RDC. Madame, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. L'armée congolaise est infiltrée à tous les niveaux. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont des généraux, des anciens rebelles, comme vous avez d'ailleurs bien dit, qui sont devenus des combattants. Je pense qu'on doit faire des réformes pour ne pas faire la plume à tous les rebelles, à tous ceux-là qui ont versé l'État. En troisième lieu, on doit favoriser justement le partenariat entre les grandes puissances. Aujourd'hui, il y a des grandes puissances qui sont reconnues mondialement sur le plan militaire, notamment les États-Unis, la France et les autres. Il faut que la RDC arrive à favoriser ces partenariats-là pour que les forces armées congolaises soient aussi au rendez-vous. En troisième lieu, on doit interdire formellement l'exploitation des minerais dans ces zones à haut risque. Parce que tout ce qui est autour de ces guerres, autour de ces rébellions que nous connaissons dans notre pays, c'est aussi l'exploitation des ressources minières. On doit interdire cette exploitation. En quatrième lieu, on doit sécuriser les forces loyales, c'est-à-dire non militaires, on doit les sécuriser, pour qu'il n'y ait pas de mutation entre les frontières. Surtout, nous savons, nos frontières sont poroses. La porosité de nos frontières font même qu'il y ait des mutations de près et d'autre, ce qui fera que beaucoup d'autres militaires risqueront d'être, beaucoup d'autres rebelles risqueront justement de se faire évader. En cinquième lieu, on doit allouer des fonds en hommes, en logistique, et pourquoi pas aussi des fonds financiers, parce que ce sont ces fonds-là. Et vous savez, c'est cette région-là, les provinces concernées par cet état de siège, ce sont des vastes provinces. Et si on ne mobilise pas assez d'hommes, on ne mobilise pas assez de moyens logistiques, il sera difficile. Je pense qu'on n'aura pas atteint l'objectif. En sixième lieu, madame, on doit réhumaniser, on doit refonder également notre appareil diplomatique. Vous savez, c'est depuis très longtemps que l'appareil diplomatique ne marche plus. Et nous avons des ambassades qui sont des ambassades de façade. Justement, on doit booster, on doit faire la redynamisation de cet appareil-là. Et en septième lieu, qui est la dernière proposition, on ne doit pas négliger la capacité de l'ennemi. Tout ce que nous disons ici, c'est parce que nous sommes d'un ce côté, mais on ne sait pas ce que l'ennemi est en train de deviner. Et voilà pourquoi il est toujours dit que la guerre, c'est la continuation de la diplomatie à travers d'autres moyens. Parce qu'aujourd'hui, les États, les gouvernements congolais ne doivent pas minimiser la force de l'ennemi. Parce que c'est depuis très longtemps que ces rebelles-là ont élu domicile, ils commettent des atrocités et les pays étaient dans l'impuissance de pouvoir éradiquer ces forces rebelles. Et maintenant qu'on a mis l'état de siège, ce sont les mêmes militaires qui ont failli autrefois, qui sont maintenant peut-être avec un autre tonus, c'est un peu d'énergie. On ne doit pas minimiser. Il faut qu'il y ait des mécanismes très vigilants pour que ces militaires-là soient en position de force. Sinon, nous allons revivre la même situation et que ces rebelles-là vont continuer à semer des zizanies à l'inefficacité totale des forces armées. Et nous ne
Marie-Paul. Paul Awa, un grand merci. Un grand merci, Marie-Paul, qui nous a cité cette proposition intéressante. Marie-Paul, avant de prendre Patrick Jean, on va prendre Médard Durocher-Bob qui est en ligne. Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, merci, madame.
À vous la parole, on vous écoute.
Bien sûr, moi, je suis en train de proposer. Pour moi, l'idée, c'est une bonne idée. Mais retrouver ces généraux ou certaines personnes qui se nommaient dans les rapports mapping des Nations Unies, c'est encore un autre problème. Mais le nommer, ce n'est pas quelque chose de mauvais pour le moment, parce que nous sommes dans un pays où l'armée est beaucoup plus infiltrée. Et dans cette circonstance, il faut chercher quelqu'un qui peut avoir quand même, être sûr de sa nationalité, être sûr de sa personnalité. Et les rapports mapping, le trouver ces gens-là dans ces rapports mapping, c'est comme un garde-fou. Si, par exemple, que si ces gens-là peuvent se rebeller d'une manière ou d'une autre, ils seront rattrapés par les rapports mapping. Mais quant à dire qu'on a nommé des gens qui commettaient des bavures, et qui vont encore reprendre dans la même direction, ça, moi, je suis en train de m'inscrire dans une autre logique, comme la logique de celui qui est très dérangé. On prend les dérangeurs, on les met chef de classe. C'est pour éviter qu'il y ait des bruits. Maintenant, comme on les a nommés, ils sont là. Le contrôle est entre les mains des Congolais. Comme ça, les infiltrés seront retenus. Et l'affaire, je crois que l'affaire va se terminer. Parce que je vois déjà la décapitation. C'est ce qui a poussé même à Paul Kagame de faire aussi son discours ou encore sa déclaration. Il a prié. Il a pris quoi? Il a pris rien. Il se sent coupable. Comme il se sent coupable, il n'y a que le rapport mentir qui mettra la justice, qui tranchera cette affaire. Mais ce n'est pas à lui de dire qu'il est en train d'agir, il n'encouragera rien du tout, mais c'est les autorités congolaises qui peuvent prendre à main leur destin et se décider normalement. Et la prise de conscience des militaires fera en sorte qu'il n'y ait plus encore la guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
Un grand merci, Médard Durocher-Bob, hein, pour votre témoignage. Avant de prendre Patrick Jean, je voudrais rappeler une petite information, parce que Patrick Jean, lui, il en a parlé dans son commentaire. Hein. Selon la presse congolaise, sur proposition des députés nationaux du Nord Kivu, les élus des 26 provinces de la RDC ont accepté le 11 mai dernier de déduire $500 sur leurs émoluments pour soutenir les militaires et policiers dans le cadre de l'état de siège, donc au Nord Kivu et en Ituri. C'est pour ça qu'on prend donc Patrick Jean, qui est top fan, qui est en RDC. Patrick Jean, à vous la parole, on vous écoute.
Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique. C'était par rapport à la décision de soutenir le phare BT au front et par rapport à l'état de siège qui est décrété pour nos deux provinces et les Touriers du Nord Kivu. Donc, selon moi, nous voyons que vraiment il y a une forte adhésion de la population. Il y a pas mal de campagnes de sensibilisation à la télévision, sur Internet et puis dans les réseaux sociaux. Mais ce que nous voulons, c'est que nous voulons que ces dons ou bien cet engouement-là de la population ne reste pas seulement spécifique, que ce soit vraiment concret. Donc, nous voulons que, on a vu des t-shirts qui se vendent moyennant 20 dollars américains. Et moi, j'avais suggéré que ça ne soit pas seulement le fonds de commerce pour le producteur de ces t-shirts-là qui soutient l'opération l'état de siège ou les phares baissés au front. Que le dirigeant s'imprègne de la situation, qu'il sache un t-shirt qui se vend 20 dollars et le producteur bénéficie combien et que gagne le phare baissé dans ça. Et qu'il y ait une traçabilité dans la gérance de ces fonds-là. Et je me disais d'ailleurs qu'il faut pas faire de business derrière une situation qui n'est pas vraiment ordinaire. Donc il faut que ça soit bénéfique pour la nation et pour les soldats au front. Et je suis allé encore plus loin pour dire, au lieu seulement de se limiter seulement aux députés nationaux, il faut que ça touche toutes les couches sociaux. Donc là, je vois le sénateur, par exemple. Je vois le membre du gouvernement. Et dans ces occasions, pareil, le président de la République étant que le garant de la nation peut donner aussi, peut booster aussi en donnant après ça par l'exemple lui-même. Donc c'est un peu ça, étant que politologue, je suis en train de voir comment accompagner l'état d'urgence. Et il n'y a pas longtemps, un parti politique, pour ne pas faire la publicité, un parti politique de la place a organisé le 17 mai passé, le lundi passé, une matinée politique pour récolter le fonds, donc à partir de 1 000 francs congolais pour soutenir l'effort de guerre. Donc, c'est déjà des bons signes qui prouvent déjà que le peuple congolais s'adhère vraiment sur l'état de siège.
Un grand merci, Patrick Jean. Donc, à partir de la RDC, hein, je rappelle qu'on a essayé de joindre tout le monde, comme d'habitude, hein, Jonathan Chiswaka, Yongo Braf Kamenga, Alphonse Mwaki, Eric Chiasuma, et on a Christian Politasi pour terminer, qu'on est parvenu à voir. Christian, à vous la parole, vous êtes le dernier auditeur.
Merci, la parole à Corbeau Nathalie. Je crois que l'état d'urgence s'est fait déjà assez près. Le rapport Mapping qui a été publié aujourd'hui, il y a plus de 10 ans, a fait réagir Paul Kagame, qui tantôt soutient l'état de siège, tantôt il nie le nombre de morts des Congolais, sachant que l'état de siège a été justement instauré pour combattre les morts, pour combattre la guerre, pardon, et il sait que la guerre de l'ADC est une guerre asymétrique, et dont les rebelles sont beaucoup plus des étrangers, et du coup, cela démontre bien selon que le vrai ennemi des Congolais, c'est Paul Kagame et les Rwandais. Et donc, aujourd'hui, l'état de siège a fait déjà ses preuves. Nous avons croit que après un mois, nous pouvons encore dire que voilà, il a fallu cet état de siège. C'est qu'il faudrait tout simplement chercher encore des moyens et mobiliser encore des moyens pour soutenir nos vaillants militaires. Sinon, déjà, je crois que là, nous sommes dans une bonne lancée et que les économies qui, sont assises sur base des matières premières, sur base des sangs des Congolais, vont bientôt tarir et que la paix régnera en Afrique. Désormais, l'Afrique pourra dire bravo parce que la gâchette va bientôt sonner, va bientôt être tirée et nous oublierons cette histoire de la faim en Afrique parce que la RDC va répondre au plan.
embrasse Nathalie Barré.
Un grand merci Christian. Je voudrais citer Yongo qui dit la solution est d'indexer le Rwanda comme 27e province de la RDC, dit-il ironiquement. Et Jonathan, il dit pour une participation nationale, alors lui suggère que les offrandes des églises puissent être orientées dans une caisse de soutien aux militaires. Un grand merci à toutes et à tous, un grand merci à Cheikh Thiro et son équipe, à la production. À très bientôt, c'était Nathalie Barge avec vous, au revoir et bon courage.